Vraiment, c'est terrifiant de voir ça, parce qu'on se dit, on le reverra plus, quoi. En refaire un exactement en copie, je sais pas ce qui sera choisi comme option. Mais de toute façon, celui qui est parti, c'est une œuvre d'art qui a brûlé. Voilà.
Réécoutons l'orgue de la cathédrale de Nantes, enregistré en 1994 par Alter Nantes.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Creature Shock Radio FM. The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Votre émission Info Culture, un mercredi sur deux, les semaines paires, sur Radio G 101.5, la radio FM.
Mafia, c'est votre émission Info Culture, un mercredi sur deux sur Radio G. Salut Seb.
Salut Seb.
Et on attend Pablo qui va arriver. Alors ce soir, comme d'habitude, on va parler de cinéma, on va parler de musique, on va parler de bande dessinée, de livres, tout ce qu'on aime. On est bien sur Radio G.
Oui, tout à fait.
Et on démarre avec de la musique.
Oui, avec un petit morceau de musique, tranquille. Tu nous proposes
tranquille,
quoi?
Tranquille, je vous propose Massisteria. Massisteria, c'est un groupe de métal français, mais ça groove beaucoup. C'est bien sympathique, surtout quand il fait gris comme ça.
Oui, tout à fait. Hein,
quand la journée est pluvieuse. On a envie
de soleil.
Ouais, et de pêche.
Et de pêche.
Le bien-être et la paix. D'un Band Geek Mafia. C'est Massisteria.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point. Et c'est parti, et c'est maintenant. We'll be right back.
C'était ma Sisteria dans Band Geek Mafia.
Et ça fait du bien pour les cages à miel.
Si vous avez l'occasion de les voir en concert, n'hésitez pas. Alors j'en profite, en attendant Pablo pour parler de cinéma, j'en profite pour démarrer avec Rockhard. Parce que Rockhard, c'est le magazine du hard rock et du métal. Mmh. C'est un mensuel et le numéro de février 2024 vient d'arriver dans ma boîte à lettres.
Alors, merci facteur.
Merci facteur. Alors, j'ai pas de part dans ce magazine, mais je voulais vous en parler parce que c'est vraiment très sympa si vous aimez le rock, le métal et tous ces styles variés, parce que c'est très varié.
Tout
comme,
à fait.
Comme genre. Eh bien, vous allez adorer parce que vous avez Bruce Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden en couverture.
Et moi, j'ai pensé à Bruce Willis, tu sais, dans l'armée des 12 singes.
Mais en fait, il se prend pour Mandrake le magicien.
Bruce Willis dans l'armée des 12 singes, plutôt.
Et donc, Bruce Dickinson, chanteur d'Iron Maiden, sort un album solo. Et donc, vous avez une superbe interview dans ce magazine. Mais vous allez découvrir tout un tas ou redécouvrir tout un tas de groupes plus ou moins célèbres. Alors, il y a des groupes très, très connus. On vient de parler d'Iron Maiden, évidemment. Ou Motley Crue ou d'autres. Voilà. Mais il y a aussi des découvertes à faire dans tous les styles. Alors, moi, j'aime bien en particulier certains styles un peu lents, un peu heavy. Voilà. Alors là, bah, vous allez adorer The Obsessed, par exemple. Voilà. Creeper, Monkey 3. Enfin, il y a plein de stoner, enfin, de gens, excellent. Voilà, excellent. C'est toujours excellent, ce magazine. Et alors, il y a un débat dans ce mois-ci dans le magazine. Il y a un débat de la rédac. Donc, les journalistes de la rédac sont autour de la table et ils discutent d'un thème.
Et là, et quel est ce thème?
La question, c'est: les grands groupes sont-ils immortels?
Ah, c'est pas mal, hein? Ah, oui.
Mortel ou immortel, les grands groupes, genre Kiss, Black Sabbath, etc.
Bah, par leur œuvre, immortel.
Voilà.
Mais malheureusement, mortel.
Et malheureusement, un jour. Tu crois qu'un jour, Ozzy Osbourne va mourir?
Ouais, mais il reviendra sous la forme d'un zombie pour nous chanter deux, trois petits morceaux.
Bah, tu sais que les mecs de Kiss, eux, ils ont prévu des hologrammes.
Il y en a pas mal actuellement.
C'est
hein.
Ce qu'on découvre en lisant Rockhard. Donc voilà, je voulais évoquer ce magazine parce que c'est vraiment sympa. Donc je rappelle quand même, hein, donc les interviews de groupe, les actualités du métal, mais aussi bien sûr des chroniques, hein, les chroniques des sorties, des albums qui sortent, parce qu'il y en a beaucoup quand même, hein, régulièrement. Mm-hmm. Voilà, donc c'est toujours très bien écrit, c'est de qualité. N'hésitez pas, voilà, acheter Rockhard, ça coûte combien? Ça coûte, parce que je suis abonné. Ça coûte 8,90.
Voilà. 8,90, c'est un bon investissement.
Tous les mois, donc ça va. Restez à l'écoute de Radio G.
Restez à l'écoute de Radio G.
Il y a Pablo qui vient d'arriver. Ouais.
Oui, bravo Pablo. Ouais, olé.
Alors justement, j'ai profité de ton absence, Pablo, pour parler de Rockhard qui vient de sortir. En attendant, tu peux t'installer. On va écouter un petit morceau de musique, Sam. On va écouter les Melvins.
Ah oui, on va écouter les Melvins. Alors qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur ce morceau?
C'est Melvins, bien sûr, c'est mon groupe préféré. C'est un groupe américain de Seattle qui a inventé le grunge et qui vient de sortir un nouveau titre, Working the Ditch. Alors là, c'est très intéressant parce qu'ils vont sortir un album au mois d'avril. C'est un premier titre qui vient de sortir sur Spotify. Et vous allez découvrir ou redécouvrir ce groupe magnifique dans quelques instants, puisqu'on va écouter un extrait de Working the Ditch dans Band Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
bien. Je suis complètement objectif.
Non.
Objectif. Demande-moi, Pablo, je peux. Je... Ah ben ça, tu, hey, tu bouges moi. Allez, tu bouges ma molette.
Non,
Pablo, il joue ma... il bouge avec les molettes. Alors, on dévoile tous les secrets techniques hein, de cette émission. En fait, on a des micros magnifiques et on a des petites molettes pour monter ou baisser le volume.
Tout à fait.
Et Pablo, il joue avec la molette.
Et voilà.
Bah, et bonjour à toutes et tous. Rien.
Salut Pablo.
Désolé,
salut Pablo.
En retard. Salut les Seb.
Ah, c'est le problème du transport en commun. Ah, mais et c'est pourtant, c'est bien. C'est bien pour la planète.
Ah ouais, franchement, c'est super.
De quoi vas-tu nous parler ce soir, Pablo ?
Pas ben de jeux vidéo, en tout cas.
Non, pas encore.
Pas encore.
Non, non, non. Bon, écoutez, on va parler d'un film qu'on a vu ensemble avec Seb.
Ah oui.
Qui s'appelle May December de Todd Haynes. Et actuellement, l'affiche. Alors écoutez, un scénario simple pour un film complexe et prenant. Une belle performance d'actrice, Natalie Portman et Julianne Moore. Un film sur le métier d'acteur, d'actrice. Ce qui n'est pas simplement... Et d'ailleurs, c'est pas simplement un métier d'homme. Hein. La blague est tombée à...
Excuse-moi, j'étais en train de... J'ai des problèmes techniques.
J'ai des problèmes techniques.
J'ai mon casque qui grésille. Donc ouais,
c'est une petite ref.
C'est un métier d'homme.
C'est un métier d'homme, c'est ça.
Ça, c'était une super pièce de théâtre.
Exactement.
Ah oui. C'était
Alors, le synopsis. Le titre May Day fait référence à un terme anglo-saxon désignant une relation entre deux personnes ayant une grande différence d'âge. Cela fait près de 20 ans. Que Gracie Atherton a épousé Joe Yu, un Américain coréen, plus jeune de 23 ans. Cette romance avait fait la une de la presse People, notamment en raison de leur importante différence d'âge. Le couple vit désormais à Savannah, en Géorgie, et reçoit la visite d'une actrice, Elizabeth Berry. Celle-ci s'apprête en effet à incarner Gracie sur le grand écran et fait des recherches pour préparer son rôle. Voilà pour le synopsis. Donc c'est un film, qui semble prendre la tournure d'une comédie dramatique, mais ce n'est pas du tout le cas. Il semble devenir un drame ou un thriller, mais ce n'est pas vraiment ça non plus.
Non.
C'est néanmoins une lente montée en tension.
Et c'est quoi donc alors ?
C'est un film très mystérieux.
Alors qu'est-ce que tu peux.
Alors parce que Pablo et moi, avec nos compagnes respectives, qu'on salue, qu'on embrasse.
Salut.
Nous sommes allés voir May December et effectivement, c'est très 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 mystérieux. C'est un film qui déjoue nos attentes. Hein, parce que en plus la musique ne nous aide pas parce qu'en fait la musique nous fait penser à Faites entrer l'accusé. Et donc, ouais. On s'attend à un meurtre, on s'attend à un crime, on s'attend à un drame total.
Ouais.
Mais c'est pas exactement ce qui se passe. C'est même pas du tout ce qui se passe d'ailleurs.
Non.
Donc c'est pas une comédie, c'est pas un thriller, c'est un film mystère. C'est tout ça à la fois.
Ouais.
Alors c'est surtout un film sur les actrices. Mm-hmm. Parce que il faut quand même dire que Natalie Portman et Julianne Moore sont extraordinaires dans ce film. Et surtout que Natalie Portman joue une actrice qui essaye d'entrer dans son rôle. Et son rôle, c'est de jouer le personnage de Julianne Moore. Donc c'est assez troublant. Elle essaye de l'imiter, elle essaye de lui ressembler. Il y a quelque chose d'assez étonnant.
Ouais. Et d'ailleurs, tu remarques, sans divulguer, juste que, en fait, au fur et à mesure qu'elle l'imite, à la fin, elle l'imite, mais parfaitement, quoi.
Elle l'imite de mieux en mieux, c'est sûr. Hein. C'est une grande actrice.
Ouais.
Mais c'est surtout, à la fin, on en a reparlé avec Florence. On se disait qu'en fait tout était faux en fait, c'est-à-dire que ce que la femme donc c'est l'histoire d'une femme plus âgée qui s'est mariée avec un homme très jeune, d'accord. Et donc Natalie Portman, qui est actrice, doit jouer ce rôle, donc elle vient les voir. Jusque voilà là. Voilà, elle va incarner ce rôle, donc elle est célèbre, elle vient rencontrer celle qu'elle va incarner à l'écran, voilà. Ça va,
d'accord. C'est ce qui me manquait au point de départ là, parce que là j'étais un peu perdu quand même.
Et donc c'est une femme plus, elle doit incarner une femme plus âgée qui a séduit un homme plus jeune, voilà. Et donc voilà,
une cougar quoi.
Ouais, voilà. Et sauf que on lui montre le mode de vie de la famille, on lui montre les différents membres de cette famille. Elle fait partie à un moment donné des repas de famille, des rendez-vous familiaux. Sauf que à la fin, on se dit finalement, est-ce que tout ça n'était pas un coup monté ? Est-ce que c'était pas une image qu'on souhaitait montrer ? Est-ce que c'était vraiment la réalité ?
Ouais. Mystère. Oui, parce que le couple qui sert de modèle est trop modèle, peut-être.
Oui, alors voilà, il cache des choses. On peut pas tout dire. Comme dit Pablo, on va pas dire.
On va pas gâcher. Oui, non, mais.
Et bien puis, compris. Et puis, il y a aussi, pour le personnage de masculin, une sorte de révélation. Qu'on pourra pas dévoiler ce soir, mais une sorte de révélation par rapport à son passé, à son histoire. Voilà.
Et on est vraiment dans l'esprit hollywoodien, c'est-à-dire vraiment avec des très gros plans sur les visages, une photographie qui est vraiment très belle, très soignée.
Ah, Todd Haynes, quoi.
Ouais, voilà.
Magnifique.
Vraiment, super direction d'acteur. Bon, voilà.
Todd Haynes, c'est lui qui a fait Carol, si vous n'avez pas vu ce film, très très beau, sur une femme dans les années 50. Là aussi, c'est un film féminin, magnifique. Et Todd Haynes, il sait bien filmer les actrices, finalement. Il est bon pour ça. Donc, voilà. Donc, moi, je dirais May December, je dis OK. Je dis que c'est un bon film. Je sais pas, Pablo, ce que tu en penses.
Ah, mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi. On a passé un super moment.
Ouais, on se laisse porter.
Ouais.
Ça dure presque 2 heures, mais.
Hein, on se laisse porter. Nathalie
Portman.
Voilà.
Ouais.
Bien joué.
Ouais.
Il est joli, trop ça.
Il comprend toutes les blagues, hein.
Ouais. Enfin, bref, celle-là, elle était un peu.
Elle était téléphonée. Mais... Hey, Portman. Voilà. Non, bref. Alors.
Portable.
Portable. C'était Nathalie Portable.
Même Nathalie Portable.
Waouh. Wow. Oh,
Camoulox aussi en même temps.
Non, j'ai cru que t'allais dire porte-manteau, là, quand même. C'était un
non,
peu.
Non, non, non. Il a failli. Mais bon. Non. Je me permets.
Bien. Alors, on a assez blagué. Donc, December de Todd Haynes, Pablo et moi, nous vous le conseillons.
Ah ouais,
ce film. Si vous aimez, voilà, les films mystérieux.
Ah bah, là, vous nous avez bien plongé dans le mystère. Quand même.
Et on ne s'ennuie pas une seconde, en fait.
Non, tout à fait.
Non, c'est bien. C'est...
Ah ouais. Comme je dis, il y a une petite montée en tension qui va de plus en plus forte.
Ouais.
Et là,
ouais.
Voilà. Non, vraiment un super film.
Un petit morceau de musique maintenant ?
Je ne sais pas, moins qu'on ait un deuxième film.
On a un deuxième
film.
C'est l'abondance, là, c'est... les gars.
Ah, alors attendez, deuxième film. Générique.
Ah oui. Hommage à Romain. Si tu nous écoutes, petit ange parti trop tôt. Il y a de la musique à mettre. Et oui.
Alors,
Pablo, de quoi vas-tu nous parler maintenant ?
Alors, un film plutôt sympa. Mais pas aussi
pas ouf.
Pas
voilà, bien mais pas ouf.
Voilà, exactement, bien mais pas ouf. Mais vraiment on passe un bon moment, ça s'appelle La Tresse.
Ah, d'accord. J'avais besoin de ça pour mettre le morceau.
Voilà, La Tresse de Laetitia Colombani.
Et j'ai lu le bouquin moi.
Ah, OK, bah tu pourras me dire ce que tu en penses parce que bon, elle adapte elle-même son propre best-seller de 2017 et donc ce film est sorti en 2023. Donc il est plus à l'affiche mais vous pouvez je pense le voir. Alors c'est un bon conte contemporain, c'est un beau conte contemporain sur la mondialisation des échanges et l'émancipation des femmes. Je vous parle du synopsis. En Inde, Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. En Italie, en Sicile, Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Au Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est malade. Elle a un cancer. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus singulier. Alors ce film nous plonge au cœur de l'humain, des relations humaines et des combats des femmes pour vivre, voire pour survivre dans ce monde de la violence économique. Des poncifs, certes, il y en a. Mais c'est bien joué. Et on se laisse prendre à l'histoire. Ce qui me dérange le plus, c'est que ces trois combats de femmes, c'est-à-dire celui de l'intouchable Smita, qui veut sortir sa fille de sa condition d'esclave et la scolariser. Celui de la jeune Sicilienne, Giulia, qui se bat pour sauver son atelier familial surendetté. Et celui de cette avocate canadienne, Sarah, qui se bat contre son cancer et pour garder sa place au sein de son cabinet d'affaires. En fait, ce qui me dérange le plus, dis-je, c'est que ces trois combats soient mis sur le même plan. Bon, après, si on ne cherche pas la démonstration, et si on le prend comme un conte, un peu à la façon d'Amélie Poulain, alors, franchement, on passe un bon moment.
Ouais.
Voilà. Est-ce que... Donc, La Tresse, les amis de Laetitia Colombani. Et toi, tu disais que tu avais lu...
Ouais, j'ai lu le bouquin. D'ailleurs, je voulais signaler que La Tresse passe encore au Cinéville.
Yes, très bien.
Oui, alors j'ai lu ça l'été dernier, en fait. J'étais passé un peu à côté quand il est sorti. au hasard de mes rencontres professionnelles, je suis tombé sur ce bouquin. Et donc, je l'ai lu cet été. Et en fait, c'est un vrai bouquin à lire l'été, en fait. C'est clairement ça. C'est vraiment facile à lire, léger. Même si l'histoire est grave, en fait, c'est assez troublant parce que c'est à la fois léger et grave. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont abordés. Tu disais le cancer, la pauvreté en Inde, etc. Et en même temps, il y a de l'espoir. Voilà. Ouais. Il y a de l'espoir dans ce livre. Donc, c'est assez agréable à lire. Je conseille la lecture. Alors, j'ai pas vu le film. Moi, j'imagine que, puisque c'est Laetitia Colombani elle-même qui a réalisé, c'est quand même pas, elle est pas, c'est pas Todd Haynes, quoi. C'est pas une grande réalisatrice, voilà, donc je ne sais pas du tout. Je pense qu'au niveau réalisation, c'est peut-être un peu plat.
C'est un peu convenu.
Elle est pas réalisatrice, elle est écrivain.
Voilà, écrivaine. C'est ça. Mais c'est chacun son métier. Franchement, il y a de belles images.
Chacun son métier.
Voilà, il y a de belles images. Franchement, c'est quand même bien fait. C'est, je vous dis, franchement, on passe un bon moment.
En fait, moi, dans ce genre de film, de proposition, je pense que l'histoire est très bien, mais au cinéma, visuellement, je suis pas sûr que ça donne quelque chose d'extraordinaire, quoi.
Ouais, alors après, c'est les actrices, franchement, ont été bien choisies.
D'accord.
Et non, franchement, ça, tout va bien et bien dirigé. Franchement, le job est fait. Hein.
D'accord.
Franchement, on passe un bon moment. Il y a aucun problème. Je vous dis, c'est juste que c'était ce truc de mettre sur le même plan. Mais ça, c'est, en même temps, voilà, ça donne à la fois, comme tu dis, de la gravité et de la légèreté.
Oui, et puis c'est la tresse, c'est aussi. Alors, c'est une histoire de cheveux, mais on dévoilera pas tout. Mais c'est aussi ces trois histoires qui s'entrelacent.
C'est ça.
Voilà,
c'est ça
aussi.
Voilà.
Qui forme une tresse.
Exactement.
Et voilà.
Après, voilà.
Il est vraiment fort.
Exactement. Après, c'est vrai que c'est pas la patte, par exemple, si on prend des scénaristes qui font ça ou des comment dire,
des réalisateurs
qui font ça, genre Iñárritu. Voilà, c'est pas pareil.
Ouais. Merci Pablo.
Merci à vous.
Je vous propose un petit morceau de musique. Nous propose un petit morceau de Nirvana. Est-ce que tu peux nous donner le titre éventuellement?
C'était quoi? Là, il l'a pas sous les yeux, il peut pas savoir.
Piège.
Ah, vas-y Seb.
Alors, si je me trompe pas, c'est Penny Royal.
Penny Royalties, bien sûr.
Sur Bangeek Mafia.
La radio chez.
Radio chez qui fait le point.
Oui, la radio qui fait le point, et c'est parti.
J'adore.
Yeah.
voilà, c'était Nirvana avec Penny Royalties. Et maintenant, Seb,
ça va nous parler. Ça va être,
c'est la BD. BD.
Alors, yes. La musique, elle est très joyeuse. Par contre, je vais vous parler de deux bandes dessinées qui, elles, ne sont absolument pas joyeuses.
C'est marrant, c'est un peu comme d'habitude.
Voilà, c'est ça. Ah non, c'est totalement différent. Là, pour une fois, on ne parle pas de
la Seconde Guerre mondiale.
Non, on parle pas de tout ça. Alors, on va commencer par Aimé de Jong, aux éditions d'Argo, Jour de sable. Quatrième de couverture.
Très belle BD,
très grosse BD.
De qualité.
Au poids, c'est pas mal. États-Unis, 1937. John Clark, un photoreporter de 22 ans, est engagé par la Farm Security Administration, un organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers victimes de la Grande Dépression. Sa mission, témoigner grâce à la puissance d'évocation de la photographie de la situation dramatique des agriculteurs du Dust Bowl. Située à cheval sur l'Oklahoma, le Kansas et le Texas, cette région est frappée par la sécheresse et par des tempêtes de sable spectaculaires qui plongent les habitants dans la misère, poussant bon nombre d'entre eux à migrer vers la Californie. Mais au fil du temps, John comprend que, pour accomplir sa tâche, il devra surmonter un obstacle bien plus grand qu'un climat hostile.
Wow. Là aussi, il y a un mystère.
Ah oui, il y a un très grand mystère. Elle se lit très très bien, cette bande dessinée. Graphiquement, moi je trouve que là c'est vraiment une très très réaliste. On se retrouve finalement les raisins de la colère. Vous connaissez Steinbeck.
Ouais.
Donc là, on est plongé vraiment dans cet univers d'une Amérique vraiment en crise profonde et qui est dans un état mais déplorable, surtout dans
abandonné, complètement dans le sable.
Et là, on a, c'est pareil, c'est bien représenté dans cette bande dessinée. Quand même, le sable s'insinue partout, même parmi les pages, parmi les vignettes, parmi les cases de la bande dessinée. On en a partout du sable. On en mange.
surtout les personnages.
Alors moi, le seul petit bémol que je pourrais mettre sur cette bande dessinée, c'est il y a beaucoup de dessins, et ça c'est génial, et je trouve que ça manque un petit peu de texte.
Mais voilà,
c'est ça, c'est juste ça. Mais
et en fait, faut se laisser plonger dans ces paysages, c'est vrai, dans ces tempêtes de sable,
dans cet univers.
Et puis les gens qui habitent là sont des taiseux.
Tout est vraiment reporté.
Le héros est un photographe, donc lui prend des photos.
C'est encore plus compliqué.
D'accord.
Et puis surtout, ce qui est assez intéressant, c'est à la fin justement de la bande dessinée, on a aussi des photos d'époque, justement une explication par la photo, des photos réelles justement de cet événement, et des photos qui représentent aussi le Dust Bowl, qui est quand même un phénomène incroyable.
Allez voir sur internet, hein, Dust Bowl.
Les photos
ont inspiré d'ailleurs beaucoup le dessinateur.
Oui, tout à fait. Ah bah là, on les reconnaît tout à fait, hein. De toute façon, les photos qui sont présentées sont celles qui sont aussi vraiment utilisées dans la bande dessinée. Et pour parler du Dust Bowl, on parle actuellement du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. 1937, les États-Unis.
Ça commençait déjà.
Ouais. Et en tout cas, le graphisme a l'air magnifique.
Ouais.
C'est une très belle BD.
C'est une très très belle BD. Ouais. Vraiment, vraiment très bien. Là, vous avez l'édition.
Je l'ai lu et je la conseille aussi. On est 2/3.
Nous sommes 2/3.
C'est super.
Alors, là, une petite découverte. Ouais. Toujours aux éditions d'Argo. Une adaptation d'un roman, alors qui est considéré comme un roman dur, de Simenon.
C'est quoi un roman dur ?
Alors, Simenon a une production
pléthorique.
Il a fait, bien sûr, tout le monde connaît Maigret, qui était vraiment son fonds de commerce, on va dire. Et puis il y avait des romans, ce qu'on appelle des romans un peu plus durs, justement dans l'histoire. Deux douzaines à peu près de romans durs.
Donc, qui sont pas des enquêtes du commissaire Maigret.
Mais qui sont vraiment sombres. C'est dans ce sens-là. On atteint vraiment une noirceur.
Ça me fait penser de Hard Boil. C'est les romans noirs américains des années 30. On disait Hard Boil, c'est-à-dire dur.
là, c'est dur. Alors, donc, voici. Donc, le titre, c'est La neige était sale. Par Fromental et Isler. Alors, il y a eu une adaptation physique aussi.
Exactement, il y a eu un film.
Alors, moi, j'ai pas vu le film. Moi, j'ai vraiment découvert l'histoire par l'intermédiaire de cette bande dessinée. Et ça donne envie de lire aussi en même temps, d'aller un peu plus loin. Frank Friedmeier, 18 ans, fils de Lotte, la tenancière du bordel local, est un garçon gâté. Pour satisfaire ses désirs, il n'a que l'embarras du choix entre les pensionnaires de sa mère et Sissi, sa sage petite voisine, follement amoureuse de lui. Pourtant, dans cette ville sous occupation, ravagée par la guerre, les pénuries, la peur, il cède aux tentations du crime, s'avilit délibérément au fil d'actes de plus en plus terribles, jusqu'à devenir un assassin, et pire encore, mais comme souvent c'est chez Simon, excusez-moi, le chemin du mal peut aboutir à l'imprévisible. Est-ce ce qui attend le lecteur au bout de ce livre, première adaptation graphique de l'un des chefs-d'œuvre du maître du roman dur?
Ouais, ça a l'air terrible.
Ouais. C'est dur. C'est vraiment dur. Et puis sur la fin, on s'attend pas à cette fin au final aussi en même temps.
Ah, il y a une petite surprise.
Ouais, il y a une petite surprise parce que bon, on part sur quelqu'un quand même qui semble n'éprouver mais aucun sentiment digne d'humanité, quoi. C'est une ordure pas finie, on peut pas mieux dire. Voilà, un jeune ordurier pas fini, et donc voilà.
D'accord.
Et ouais, franchement, c'est vraiment très très intéressant. Alors graphiquement, on peut avoir du mal sur le graphique.
Ouais,
c'est pas très très engageant, mais
c'est un peu palo.
On est dans la lignée du roman.
Mais c'est pas en noir et blanc.
C'est pas en noir et blanc. Il y a des couleurs, mais enfin bref, les couleurs, elles sont là juste pour
un peu ternes.
Et puis c'est vrai que ça décrit plutôt une atmosphère. Alors on ne sait pas. Ouais. C'est toute une atmosphère. C'est Simon quoi finalement.
Ouais, ouais.
C'est toute une atmosphère. Alors on n'a pas, on ne sait pas vraiment dans quel pays on est.
Ouais.
On n'est pas, on ne sait pas qui occupe.
C'est les Allemands.
Ah, oui, non. Par contre, on est à quelle époque à peu près? On va dire à peu près sur la période des années 40, hein,
ouais,
puisque ce roman a été écrit en 48. Voilà. Merci.
Ouais.
48. Donc on est juste après la Seconde Guerre mondiale.
Ah, on y revient.
On y revient. Mais ça, j'y peux rien.
Pas s'en empêcher.
Non, mais honnêtement, voilà quoi. Et là, moi, je pense que bon, ce contexte 48,
ça influence l'histoire.
Mais là, voilà quoi, c'est vraiment intéressant. Et
on va lire ça.
Ah ouais. Moi, je vous le conseille parce que du coup, ça permet de découvrir aussi un roman dur. D'ailleurs, vous avez dans la couverture, vous avez une explication aussi Simenon et ses romans durs, là, exactement, un peu plus.
Donc, ça a été adapté au cinéma et au théâtre. Ouais, je voyais ça.
Et franchement, moi, je vais essayer de trouver l'adaptation filmique parce que
dans les années 50.
Je sais pas ce que ça peut donner aussi parce que là, en bande dessinée, c'est vraiment très très intéressant. C'est très très sombre.
Est-ce que tu me prêterais cette BD?
Mais bien sûr.
Oh là là, ça me tente bien.
Un peu de noirceur.
Tu nous rappelles les références peut-être.
Alors donc Aimé de Jong, Jour de sable aux éditions d'Argo. Et puis donc Simenon par Fromental et Isler, La neige était sale, aussi aux éditions d'Argo.
Merci Seb.
Eh ben merci Seb, c'était superbe.
Un peu de musique alors. Est-ce qu'on écouterait Incendiary?
Eh ben,
Incendiary, c'est un groupe de hardcore américain et si vous aimez Rage Against the Machine, vous allez adorer.
Bon,
on peut dire ça comme ça Pablo.
Ben, je pense ouais, carrément.
C'est parti.
Et dans
Bank Geek Mafia.
Dans Bank Geek Mafia sur Radio G 101.5.
101.5. Now the sun is shining, but I'm soaked in rain. Driven up and feeling it, what the gun it never ends. Talk about commitment, fail to make amends. It never stops or goes away. I rip the weeds from my garden every day.
Creature Shock Radio FM.
C'était Incendiary avec Bite the Hook dans Bandgeek Mafia.
Yes. Et c'est donc du hardcore, c'est ça?
Oui, du hardcore new-yorkais, pour être exact.
Ah ouais, avec un côté doom bien lourd.
C'est super.
Et brutal.
Voilà. Brutal, et avec brutal. Une voix un petit peu familière.
Bah ouais, clairement.
Alors, Pablo, tu nous parles d'une série magnifique.
Alors,
et là,
ouais.
On aurait eu besoin d'ailleurs du petit jingle, mais. La cantina. Ouais, voilà. C'est une circonstance.
Tout à propos.
Mais Pablo a préparé de magnifiques musiques de fond. On va parler de quoi, Pablo ?
Alors, on va parler de cette série Star Wars qui cartonne et qui a cartonné depuis sa sortie, The Mandalorian. Donc, une création de Jon Favreau. Et Jon Favreau, vous le connaissez.
C'est il a réalisé les deux premiers Iron Man.
Eh ben voilà, Le Roi Lion, entre autres aussi. Donc, Le Mandalorian, ou Mando pour les intimes. Encore une brute au grand cœur, comme on les aime. Un duo de choc entre un des guerriers les plus redoutables de la galaxie. Cette galaxie très très lointaine que nous affectionnons et un enfant, un bébé Yoda, craquant et choupi à souhait, déjà traversé par la Force. Alors le synopsis. L'histoire se déroule 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force. Et raconte les aventures d'un mercenaire mandalorien au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. 5 ans après la chute de l'Empire et la fondation de la Nouvelle République, le métier de chasseur de primes ne paie plus. Le Mandalorien, surnommé Mando, connu pour être un des plus redoutables chasseurs de primes, accepte un contrat non officiel. Il s'agit pour lui, moyennant une prime élevée, de retrouver et de ramener à ses commanditaires un être vivant de 50 ans. En cours de mission, Mando découvre que, malgré son âge, c'est un bébé, ou un enfant de la même espèce que Yoda. Il découvre aussi que sa cible maîtrise déjà la Force. Après avoir rempli son contrat auprès d'un vieil homme portant un insigne de l'Empire entouré de nombreux Stormtroopers, je vais y arriver, et touché la prime, le Mandalorien se ravise et revient sauver l'enfant. Il doit ensuite prendre la fuite avec lui, poursuivi par tout ce que la galaxie compte de chasseurs de primes lancés à leur trousse, ainsi que par une garnison impériale émergeant des cendres de l'Empire. Donc voilà, ambiance.
Oh !
Alors, ça c'était pour la saison 1. Je parle pas forcément de la saison 2. Qu'est-ce que t'en penses, Seb?
Mais on peut pas tout dire.
Faut pas trop dire.
Parce que là, déjà, moi, je trouve que t'en as dit beaucoup.
J'en ai dit pas mal. Mais en même temps, voilà. Alors, la série compte 8 épisodes.
La saison 1.
Chaque saison, en fait. Hein. D'accord? Donc, il y a 3 saisons et il y en a une 4e en préparation.
On espère.
Ouais, a priori, c'est bien parti, je crois. Alors, les fans de la série Star Wars ont été conquis par la série The Mandalorian, car on y retrouve notre chère galaxie lointaine, très lointaine, peuplée de créatures étranges, avec les vaisseaux spatiaux déglingués et les robots droïdes si humains, souvent plus humains d'ailleurs que les humains eux-mêmes. L'ambiance est celle du western de l'espace, avec ses chasseurs de primes sans foi ni loi. Ces chacals puants, prêts à tout pour quelques crédits de plus. Enfin, quand je dis sans foi ni loi, pas tous. Car Mando, notre héros qui suit la voie de sa confrérie des Mandaloriens, telle est la voie, dit-il. Avec un code d'honneur et une éthique rigoureuse, il porte son casque en toutes circonstances, par religion, entre guillemets, dit-il dans la saison 1. Et alors surtout Mando, tout aiseux et brutal soit-il, se découvre des émotions inattendues, de l'empathie pour cette petite créature persécutée, puis de l'amour paternel pour cet enfant mystérieux, de la même espèce que son illustre prédécesseur Yoda. Mando, qui est loyal envers ses employeurs, se trouve tiraillé par la pitié, puis par l'amour et par son sens du devoir. Il va devoir les trahir et les affronter afin de rester lui-même. Donc sera-t-il obligé de fuir constamment? Peut-on passer sa vie à fuir tout en aimant et en protégeant un enfant? Telle est la question.
Wow.
Et alors la question, Seb, que tout le monde se pose, Dis-moi, va-t-il enfin enlever son casque? Verra-t-on enfin le beau visage de Pedro Pascal qui interprète Mando?
Ne réponds pas.
Telle est la voix.
Telle est la voix.
J'adore. Je suis la voix.
Bon, à noter que la photographie est belle. D'ailleurs, je sais pas ce que tu as pensé des génériques en fin d'épisode qui montrent des dessins, toi qui aimes la BD.
C'est, de toute façon, là, cette série, elle est magnifique. Elle est magnifique dans tous les sens du terme. Au niveau de l'histoire, parce que finalement, on retrouve l'univers de la première trilogie. Ça fait un peu le lien aussi en même temps avec la nouvelle trilogie. Ça fait le lien aussi, comme à chaque fois, on a aussi un crossover avec une autre série qui arrive juste après, c'est Ahsoka, puisqu'on voit apparaître justement ce personnage aussi en même temps. C'est vraiment un univers qui se complète petit à petit. Et puis surtout, on en apprend pour beaucoup aussi sur les Mandaloriens. Et on apprend aussi Boba Fett, parce que un Mandalorian, ça ressemble à Boba Fett.
Carrément.
Et là, on se pose toujours la question, le lien entre Boba Fett et les Mandaloriens. Mmh. Mais on finit par avoir toutes ces explications, justement, en regardant.
Alors là, vous me convainquez. Je suis convaincu. Parce qu'en fait, j'avais un peu lâché l'affaire, moi, de Star Wars. Ouais. Parce que, déjà, la dernière trilogie, bon.
La post-trilogie,
c'est pas la meilleure.
Et puis, j'étais perdu. Hein. Clairement, moi, j'étais perdu entre toutes les histoires parallèles qui se croisent, etc. Mais là, vous me donnez un peu envie de voir le Mandalorian.
Mais surtout que tu vas, excuse-moi Seb, oui. C'est surtout que tu vas retrouver l'ambiance, comme tu l'as, ouais. Tu l'as très bien dit Seb, de la trilogie originelle.
Ouais.
Et puis, tu vois, t'as l'impression que l'esprit de Han Solo plane tout le temps.
Oula.
On est vraiment, tu sais, dans ces ambiances de rebelles, irrévérencieux, des cantinas. Il y a ce côté vintage qui est très qu'on retrouve tout à fait à l'origine quoi.
Et aussi en même temps, alors c'est peut-être aussi la petite Madeleine de Proust parce qu'on est sur un univers qui fait vraiment extrêmement penser au western des années 50 avec les bons, les méchants et
Oui, la musique ça faisait les un peu western.
Ouais. C'est un western, on peut vraiment le prendre comme un western. Mmh. Donc
western de l'espace.
Western de l'espace et là on est vraiment parce que en réalité, on n'est pas pas uniquement dans la galaxie très très lointaine, on est dans la bordure extérieure de la galaxie.
C'est ça, on est vraiment dans
la marge où il n'y a pas vraiment de loi et la loi.
On est sur la bordure extérieure,
c'est
comme ça. On dit dans Star Wars.
Tout exactement ça.
Et donc ouais, c'est génial parce que là, okay. Voilà.
Top. Et alors une dernière petite question quand même, vite fait. C'est juste pour te demander. Alors dis-moi quand même, Moff Gideon, Seb.
Oui. Jamais entendu parler.
Ah, il est badass quand même. Alors, il est interprété par. Je vais finir de te convaincre. Seb,
ah oui.
Alors, il est interprété par le magistral Giancarlo Esposito.
Ah alors, oui. Moi, Los Pollos Hermanos.
Los Pollos Hermanos de Goose Fring.
Qui jouait dans Breaking Bad.
Ah voilà. Oui. Ah bah là, c'est pareil.
Est-ce que c'est pas un méchant, un super méchant digne quand même d'un Dark Vador?
Disons que là on a
oh la bonhomme, attention, Dark Vador c'est le plus grand méchant de tous les temps, c'est
ouais ça. Et je pense que celui-là il arrive un peu plus haut que les chevilles, hein, comme on peut dire, ça remonte facilement jusqu'à la poitrine.
Ouais. Oh là là.
Non mais parce qu'on dit tout, oh t'arrives pas à la cheville, lui il a dépassé la cheville,
il arrive là
quoi. Voilà, c'est quand même pas Dark Vador.
Dark Vador
mais il en est pas très très loin, hein. Il est vraiment pas très très
intéressant,
loin.
Il est
et puis alors c'est pareil, c'est un méchant mais vraiment vraiment méchant. Voilà.
C'est bien, c'est pas
dans la nouvelle trilogie où le méchant il est là.
On va parler. Hein.
En plus, c'est des épisodes de 35 minutes à peu près en moyenne, donc ça passe très bien, très bien. Honnêtement, ils sont super bien faits. Et vraiment, on passe un super moment.
Et du coup, ça annonce bien aussi la série Ahsoka, qui est pas mal non plus. Je vous la conseille aussi.
Alors, à regarder aussi. Je vais bientôt. Et puis alors, il y a Andor qui est.
On oublie.
Voilà.
Ok. Est-ce que vous voulez que je vous parle d'une série?
Allez, vas-y, à toi.
Parce que là, on oublie, donc faut qu'on passe à autre chose.
Exactement.
Alors moi, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas développer ce soir, mais je voudrais quand même vous la signaler parce que c'est gratuit, c'est sur Arte TV. Vous savez que sur Arte, vous pouvez voir en replay beaucoup de films et de séries. Et en ce moment, avec Florence, on est en train de regarder This is England. Alors au départ, This is England, c'est un film sorti en 2006 sur des jeunes Anglais au début des années 80. Et en fait, la série This is England se situe en 86, 88 et 90. C'est-à-dire qu'il y a trois saisons. Avec trois ou quatre épisodes par saison, hein, c'est assez assez rapide. Et là, on suit en fait ces jeunes Anglais dans leurs histoires improbables, parfois drôles, souvent drôles d'ailleurs, et parfois dramatiques, tragiques. Et c'est vraiment génial. Donc, je ne développe pas plus que ça. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur This is England si vous aimez les séries anglaises. Et puis les années 80, ça va vous parler. Et j'en reparlerai dans l'émission avec grand plaisir quand j'aurai terminé, parce qu'on est à la saison 2, il nous reste la saison 3.
Voilà. D'accord. Dès que t'as fini, tu nous en reparles.
Exactement.
Pour développer un peu.
Ouais.
Là, tu nous allèches, mais...
C'est comme ça. Et moi, je suis comme ça. Teaser.
Tu nous laisses, voilà, tu nous laisses sur la fin.
On s'écouterait pas un petit Bachung, Pablo?
Allez.
Hein?
Allez. Et alors, c'est donc...
Alors, c'est Pyromane.
Pyromane.
Parce que j'arrête pas d'écouter cette chanson, donc Florence va rire derrière son poste, comme dit le président.
Bah, si on le dédicaçait à Florence et Sarah.
Voilà. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est que tant que soufflera la tempête, je saurai à quoi j'aspire.
Oh.
C'est parti.
Vous êtes bien dans Monde Geek Mafia sur Radio G101.5.
La radio qui fait le point. Le duc n'en fait qu'à sa guise. Il est guise, il est guise. Les sentiments d'analyse, analyse, analyse. Tant que soufflera la tempête, je saurai à quoi j'aspire. We'll be right back.
Alors les auditeurs et surtout les auditrices ont apprécié le morceau de Bachung. Ça fait beaucoup rire et c'est tant mieux. Voilà, un peu de rire dans les foyers.
Ça fait du bien.
Alors c'est terrible les gars, il est 58, c'est déjà la fin de l'émission. Mais ça passe trop vite.
Ouais, ça passe trop vite. Exact.
Ah, c'était Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, un mercredi sur deux sur Radio G.
Mais ouais.
Tout à fait.
101.5.
On vous retrouve dans 15 jours les amis.
Oui,
oui.
On pourra parler de mondes enchantés.
Ouais, alors parfait.
De géographie, de chansons françaises.
Mmh. Et là, je vous ai mis un dernier petit morceau pour terminer.
Ouais,
Violette,
Love. Et spécial dédicace Gabi.
Donc voilà.
Salut.
Salut à tout le monde.
Ciao.